notre transition numérique, notre smart city,
le logement,
l'énergie, l'habitat,
les grands majeurs des villes,
l'urbanisation, le développement durable,
vivre dans les villes.
Think Cities, le podcast. Retrouvez le résumé de l'actualité urbaine chaque semaine, traité par la rédaction de New Storm Cities.
Bonjour à toutes et à tous, encore heureux de vous retrouver pour cet épisode de New Stank Cities, le podcast. New Stank Cities qui fait peau neuve avec une nouvelle appellation de domaine, beaucoup plus recentrée, adaptée à vos habitudes de lecture et à vos centres d'intérêt. Tout cela est à retrouver évidemment sur New Stank Cities suite à une longue séquence de dialogue avec nos lecteurs abonnés, puisque l'objectif est d'être à votre entier service, adapté à vos habitudes de lecture et à vos centres d'intérêt. New Stank Cities, eh bien, se spécialise tout en gardant ce qui fait sa spécificité avec cette vue à 360 degrés de l'actualité de nos villes. Plus de détails, évidemment, dans le cadre de vos échanges avec notre relation abonnée et sur le site New Stank Cities. Cette semaine sur New Stank Cities, le podcast, beaucoup d'actualités, très centré sur l'aménagement et le logement. L'aménagement, on ne peut pas évidemment en parler sans parler des 17 labels remis par Emmanuel Wargon pour 2021. Dédiés aux entrées de ville, thématique en 2022. Et là, le focus est notamment sur les 17 labels qui ont été remis par Emmanuel Wargon. On est sur la 9e campagne de labellisation 2021, dont 10 projets d'étape 2, éco-quartier en chantier, 2 d'étape 3, éco-quartier livré, et 5 en étape 4, éco-quartier confirmé et vécu. Pour Stéphanie Dupuy-Lyon, qui est la directrice générale de l'aménagement du logement et de la nature, nous franchissons, nous dit-elle, le cap des 500 projets labellisés dans le cadre de la labellisation éco-quartier lancée en décembre 2012. Faut savoir quand même, et ça c'est un commentaire de votre serviteur, voilà un dispositif qui fonctionne, qui marche et qui n'a pas été décrété par une mesure officielle ou par une loi. On a été sur des chartes, donc ce soft law présent dans l'encadrement et dans la création de nos villes est quand même important et illustré ici. Elle nous dit, je continue, que depuis 10 ans, nous n'avions que 9 projets sur 500 ayant franchi l'étape 4. Aujourd'hui, 5 projets labellisés s'y ajoutent. Il ne faut pas oublier les 25 projets engagés à signer la charte éco-quartier avec une première étape qui permet d'obtenir l'étape 1 éco-quartier en projet. Donc, ça démarre aujourd'hui. Donc évidemment, la démarche est invitée à évoluer dans le prolongement de la feuille de route « Habiter la France de demain », hein, indique le ministère. Et dans cette perspective, Florian Berco, qui est le maire de Laval et président de la Commission nationale éco-quartier, a remis à la ministre un livre blanc proposant une évolution de la démarche éco-quartier à l'horizon 2030, centrée sur la définition de priorité annuelle, l'unification des différents référentiels existants, etc. Donc ça, c'est à retrouver sur, évidemment, New Stank Cities, les interviews, évidemment, du maire de Laval, l'acceptabilité de la densification urbaine, notamment ce que l'on avait vu avec les 3 facteurs de réussite selon le CEREMA, ou encore les 9 premiers lauréats de l'AMI démonstrateur de la ville durable avec Jean Castex. Donc la première traduction des propositions du livre blanc, hein, une convention a été signée entre le ministère représenté par Stéphanie Dupuy-Lyon et le CEREMA, représenté par Pascal Berthaud et Annabelle Ferry, directrice territoire et ville. C'est offrir un accompagnement stratégique et opérationnel à une quinzaine de quartiers par an sur 3 ans, 45 au total. En 2022, l'accompagnement sera mobilisé dans le cadre d'un programme en faveur de la requalification des entrées de ville. Donc, l'ensemble des détails, des sujets sont à retrouver évidemment sur New Stank Cities. L'aménagement, c'est aussi le canal Seine-Nord. Et avec Frédéric Roussel, qui est le président du comité régional d'action logement pour les Hauts-de-France, dont on a déjà beaucoup parlé hein, sur New Stank, différencier les logements temporaires et durables, puisque Action Logement est engagé dans le cadre du programme, notamment pour anticiper les besoins de logement. Il nous dit, il est nécessaire de différencier les logements temporaires et les logements durables. Selon les simulations, 6 000 logements seront créés pendant la phase du chantier et 30 000 en phase d'exploitation du canal Seine-Nord-Europe. Les travaux préparatoires ont démarré et la phase de construction est annoncée pour mi-2023. Pas de temps à perdre, indique Frédéric Roussel. C'est une interview exclusive à retrouver sur News Tank Cities. Nous avons, nous dit-il, par exemple, identifié un vivier de propriétaires de logements vacants sur le secteur 1 du tracé correspondant à Compiègne-Noyon. Louer ces logements serait un plus pour l'économie locale et pour les propriétaires concernés, qui sont souvent des propriétaires modestes, n'ayant pas les moyens de mener des travaux de rénovation. L'adaptation de ces logements pour répondre à une demande temporaire est donc l'un de nos axes de travail. Dans un premier temps, nous dit-il, nous réalisons un état de lieu de l'offre de logement. On revient sur la feuille de route d'Action Logement dans le cadre du projet du canal Seine-Nord-Europe. On revient sur les enjeux de ce projet du point de vue de l'habitat. Comment se caractérise le besoin en logement temporaire et durable? Comment Action Logement participe financièrement? C'est passionnant, c'est à retrouver sur News Tank Cities. Action Logement toujours, puisqu'on y est, on y reste, notamment avec cette belle nouvelle, 48 538 logements agréés en 2021. C'est près de 15% de plus que par rapport à 2020. Parmi ces logements, 33 625, c'est des logements sociaux, 14 913 des logements intermédiaires. Donc selon les données provisoires, sont près de 100 000 logements, 95 000 pour être précis, sociaux, qui seraient agréés en 2021 par l'ensemble des bailleurs. Donc 2021 est une année exceptionnelle pour Action Logement, hein, déclare Bruno Arcadipane. Et malgré la situation sanitaire et les conséquences économiques et sociales, notre groupe, nous dit-il, n'a pas relâché ses efforts. Un logement social sur trois est produit par Action Logement et nous avons atteint l'objectif ambitieux fixé en 2017, c'est-à-dire doubler la production. 5 ans après la réforme, nous avons démontré la pertinence de notre modèle. Dans le détail, c'est à retrouver sur News Tank Cities. Nadia Bouillet, d'ailleurs, nous dit « En 2021, c'est un point important pour l'ensemble des observateurs. La trésorerie du groupe est en baisse autour de 2,6 milliards pour Action Logement Service contre 5,6 milliards en 2019 et 3,2 milliards en 2020. » Et Action Logement Immobilier n'a pas dépassé les 3 milliards, indique donc Nadia Bouillet. Juridiquement et afin de respecter les ratios prudentiels, nous ne pourrons pas descendre en deçà. La mobilisation de la trésorerie était un objectif du PIV, le plan d'investissement volontaire, comme le rappelle Bruno Arcadipane. Alors la collecte de la PEC est en baisse en 2021, donc la diminution elle était prévue, hein. 2020 a été particulière avec la crise sanitaire et le chômage partiel qui a baissé l'assiette de la cotisation. Ce détail, ce panorama, c'est à retrouver sur, évidemment, News Tank Cities. Qui dit logement social, dit logement des jeunes. Et cette interview dédiée de Richard Laugier, le député, l'un des monsieur logements de la majorité, sur le logement étudiant. Il nous dit « Ce sujet reste un angle mort des politiques publiques ». C'est véritablement une interview qui est intéressante par plusieurs aspects. Évidemment, un parlementaire, connaisseur de ces questions, mais parce que cette interview fait suite au rapport d'information sur le logement et la précarité des étudiants, des apprentis et des jeunes actifs. Près de 140 pages, 20 propositions publiées par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Il revient sur ces propositions. Il revient sur un constat terrible, puisqu'avec 60% en moyenne de leur budget qui est consacré au logement, pour les étudiants, c'est quand même compliqué. Ce sujet reste un angle mort des politiques publiques, nous dit-il, avec deux ministères qui se renvoient la balle. Celui du logement et de l'enseignement supérieur, les écoles d'ingénieurs ou de commerce s'en préoccupent plus, beaucoup mieux en tout cas que l'université. Les pistes pour améliorer la situation, lui, il fait la proposition de créer une société publique locale universitaire, la SPLU. Hein. Vous voyez d'ailleurs les évolutions hein, réglementaires et législatives qui sont en cours, hein, avec la possibilité pour les universités d'intégrer des SPL, reposant sur le modèle juridique des sociétés d'économie mixte, avec comme actionnaire potentiel l'université, les collectivités territoriales. Il nous dit « Je connais bien le sujet puisque j'ai été président de l'Université de Lorraine ». La mobilisation aussi des bailleurs sociaux dans ce cadre, la nécessité d'activer le levier fiscal, hein, pas assez attractif aujourd'hui. Et puis, en tout cas, il nous rappelle sa volonté de se mobiliser. Alors, News Tank City, c'est aussi un retour sur les chiffres passés et une évaluation de ce qui a été réalisé. Or, le plan construction de 40 000 logements étudiants, lancé entre 2012 et 2017, sous le quinquennat de François Hollande, a atteint ses objectifs avec 40 265 places créées grâce au concours actif des bailleurs sociaux. Donc c'est 83% de la totalité des logements construits, les bailleurs sociaux. En 2018, le plan Macron visait la construction de 60 000 logements pour étudiants et 20 000 pour jeunes actifs jusqu'en 2022. Alors, on en est loin. On va suivre cela et on continue évidemment avec tous ceux qui s'intéressent énormément à la question à suivre le sujet. Alors, on élargit un petit peu le scope, mais on revient toujours sur le logement avec ce papier de François Leclerc hein, qu'on ne présente plus, avec une belle analyse sur la qualité des logements. Il nous dit « Beaucoup de logements ont atteint des minima guère imaginables il y a peu. En quelques décennies, la qualité des logements s'est fortement améliorée selon les critères techniques, d'abord pour des raisons énergétiques puis environnementales, plus encore aujourd'hui au regard de l'urgence climatique. Dans le même temps, s'est opérée une réduction de certaines qualités fondamentales des logements, principalement les surfaces, volumes et systèmes de distribution des immeubles. » Il revient sur la volonté de déclarer le logement cause d'intérêt général ou grande cause d'intérêt national. Il revient sur la concurrence des territoires, hein, qui n'est plus forcément à l'avantage des métropoles. Le rêve pavillonnaire peut revenir en force. L'observatoire ou le réseau de la qualité du logement, dans le cadre d'actions locales, hein, qui doit s'appuyer sur l'objectivation et les outils, la mise en place d'un réseau de la qualité d'usage, la connaissance et la comparaison, y compris avec l'étranger, les évolutions sociologiques. C'est un papier passionnant qui plaide pour une approche singulière et non standardisée de la ville. Armer les collectivités. Merci François Leclerc, fondateur de l'agence d'architecture François Leclerc avec Fabrice Dussapin. Merci parce que c'est un papier qui repose véritablement des axes objectivés justement sur cette notion de qualité des logements et qui est passionnant, que j'ai relu deux fois pour ce qui me concerne. Alors, pour finir, l'urbanisme de transition, c'est avec Myriam Co, c'est aussi sur News Tank Cities, donner à voir ce qui ne se chiffre pas. Alors, qui est Myriam Co? Ben, Myriam Co, c'est la coordinatrice du groupe de travail sur l'urbanisme de transition au LIFTI. L'urbanisme de transition au LIFTI, le LIFTI, c'est le laboratoire d'initiatives foncières et territoriales innovantes. Vous pouvez retrouver évidemment l'ensemble des contacts et coordonnées sur News Tank Cities. Dans le cadre d'un webinaire passionnant, peut-on mesurer les valeurs de l'urbanisme de transition avec nos équipes qui étaient présentes en ligne, l'intervention de Yannick Blanc, président de Futurible International et vice-président de la Fonda, qui travaille depuis 5 ans sur la mesure d'impact social, sur l'ensemble des intervenants à ce webinaire. Il y a eu là vraiment des éléments formidables. L'impact social et environnemental d'un projet devient un critère qui permet l'accès au financement. Les critères d'évaluation extra-financière, dont les critères de mesure d'impact, sont intégrés dans l'ensemble de la chaîne de décision de financement. La Banque des territoires et sa contribution au développement d'outils de mesure d'impact. Les grilles d'indicateurs des impacts sociaux et urbains disponibles sur la plateforme Commune Mesure en 2022. Vous aviez, donc ça c'est Laurent Gaillet et Audrey Charluet hein, aussi, que vous pouvez retrouver sur News Tank Cities, le renvoi au site internet de la plateforme Commune Mesure, la grille d'indicateurs des impacts sociaux et urbains disponible sur la plateforme Commune en 2022. Voilà, tout ça c'est à retrouver sur News Tank Cities, un zoom sur les expérimentations aussi hein. Donc l'expérimentation est évidemment avec la démarche est Euro-Méditerranée, l'expérimentation avec le PUCA, les 4 projets à Lille, Marseille, Est-Ensemble et Madrid. Tout ça c'est à retrouver sur News Tank Cities. Alors je rappelle le laboratoire d'initiatives foncières et territoriales innovantes. C'est un fonds de dotation important sur le foncier comme sur les questions sociétales dans les enjeux d'aménagement des territoires. Elles organisent les assises nationales du foncier. Émission, c'est d'avoir des indicateurs, c'est un think tank, opérateur. 90 structures privées du secteur foncier. Les membres fondateurs sont DS Avocats, Vilogia, Prime Immobilier. Voilà, c'est à retrouver sur News Tank Cities. On termine avec nos amis des notaires de Paris et Cédric Blanchet, pour cette belle interview du président des notaires du Grand Paris, avec des annonces, des prises de position. Nous préconisons d'étendre l'utilisation du bail réel solidaire. Il évoque et revient sur les 30 propositions pour un habitat accessible et de qualité en vue de la présidentielle 2022. Il n'existe pas de solution unique pour réduire la tension sur les prix de l'immobilier en Île-de-France et il répond à toutes ces questions. Les notaires de la Chambre de Paris sont-ils encore impactés en 2022 économiquement et socialement par la crise sanitaire? Comment il revient sur ses déclarations d'octobre 2022? Le marché affiche une santé insolente. Est-ce qu'on le confirme ou pas en 2022? Quelles sont les perspectives sur Paris et la banlieue? Les notaires observent un phénomène inédit en Île-de-France. En 2021, les prix des maisons ont pour la première fois plus augmenté en zone rurale qu'en zone urbaine et périurbaine. Pourquoi? Comment vont évoluer les prix autour des quartiers des gares depuis le lancement du projet du Grand Paris Express? Beaucoup de questions, beaucoup d'autres. C'est à retrouver sur Newstank City, cities.newstank.fr, qui, je vous le rappelle, sur ces domaines, se recentre avec trois domaines, continue avec cette vision transversale. On vous salue bien fort. On vous dit à la semaine prochaine avec évidemment un nouvel épisode de Newstank Cities, le podcast dédié à l'actualité de la semaine précédente. Je vous souhaite une belle et heureuse semaine et prenez soin de vous.